Mais c'est une belle journée grise, en plein le genre de journée où on a envie d'appeler notre agent de voyage et de partir dans le sud, un petit peu prendre un petit peu de soleil, de chaleur. On va parler donc des tendances voyage pour 2019. Le monde du voyage qui se transforme vraiment à vitesse grand V parce que aujourd'hui, on part pas juste une semaine pour le plaisir, on fait des expériences quand on voyage maintenant. Alors, on va parler de tout ça avec Marie-Claude Dililo, qui est journaliste en art de vivre et rédactrice en chef du blog Le Carnet de MC, pour Marie-Claude, bien sûr. Bonjour, Marie-Claude.
Bonjour, Marie-Hélène.
Bon, quand je disais que le monde du voyage évolue et se transforme très rapidement...
Exactement. Et je pense que les Québécois, en fait, c'est confirmé là, par les statistiques, sont un type de voyageur vraiment le fun, vraiment intéressant pour les agences de voyage. Pourquoi? Parce que, justement, ils sont ouverts aux nouvelles expériences. Donc... À cause, justement, qu'il y a eu un boom au niveau du voyage et que ça continue, les agents sont obligés de se diversifier et d'aller dans plusieurs voies pour satisfaire à une demande de plus en plus grandissante et de plus en plus pointue aussi. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui un peu, les tendances au niveau des voyages qui se dessinent pour l'année 2019.
Bon, la destination privilégiée des gens au Québec, elle est tout à fait justifiée parce qu'on est dans un pays nordique. C'est une recherche de chaleur, donc on s'en va dans les tropiques. Là.
Exactement. Ben, on va commencer par vous parler un peu du Sud.
Ouais.
Le Sud reste toujours le préféré des Québécois, et tu l'as dit, Marie-Hélène, parce qu'entre autres, on est un pays nordique et on a besoin, quand des journées comme aujourd'hui, justement, de s'évader.
Il y a un petit peu de vitamine D aussi. Là.
Un petit peu de vitamine D, oui, totalement. Et puis, donc, l'augmentation au niveau du Sud a augmenté de 92 %, c'est vraiment important. Et encore, le choix premier reste au niveau des forfaits tout inclus. Pour voir un petit peu ce qui se dessine au niveau des forfaits tout inclus, j'ai regardé un peu ce qui se passait au niveau des tendances. Puis j'ai aussi j'ai interviewé un des grossistes en voyage qu'on connaît très bien, Sunwing, dont le slogan est numéro un dans le Sud. Fait que je me suis dit, on va voir un peu qu'est-ce qu'ils font eux autres de leur côté pour changer leur marketing puis aussi leur destination,
approche, ouais.
leur approche
ouais.
aussi. Donc, tu vois, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à chaque année, ils sont obligés de sortir des nouvelles destinations puis d'en mettre peut-être un petit peu d'autres de côté.
Pourquoi ils sont obligés de faire ça?
Pour satisfaire à la demande, parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est qu'avec le Québécois aime beaucoup voyager, mais est aussi très pointu dans ses attentes. Donc, ce qu'il va vouloir, entre autres, c'est qu'il va aimer beaucoup la nouveauté. On a eu il y a beaucoup de gens qui sont venus au dernier salon Tourisme Voyage à Montréal, et puis le constat que le salon a fait, c'est que les gens sont vraiment à l'affût de nouveautés. Donc, si tu ne trouves pas de nouvelles destinations, si tu ne trouves pas de nouveaux segments, tu meurs un peu comme agence de voyage.
OK, donc les gens n'ont pas le réflexe de retourner dans le même resort,
pas nécessairement.
Au même endroit.
Il semblerait que non. Parce que justement, c'est un peu comme avec le vin aussi ou la gastronomie, les gens goûtent à ça une première fois. Donc, ils commencent par des voyages style Cuba, République dominicaine. Et là, de plus en plus, ils ont goût d'essayer d'autres choses. Donc, c'est pour ça qu'on voit d'autres destinations arriver sur le marché, autant pour le Sud que les destinations aussi émergentes qu'on va voir tout à l'heure au niveau de l'international. Mais pour ce qui est du Sud, entre autres, par exemple, cette année, c'est la grosse... 2019, c'est-à-dire donc bientôt, on assiste entre autres à une destination qui existait déjà, mais qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur et qui elle-même se développe, c'est Mazatlan au
Mexique.
C'est
au Mexique, oui.
Oui. Et ce qu'on recherche aussi dans une expérience voyage de plus en plus, alors qu'avant, on était seulement axé sur la plage, c'est entre autres de la bonne bouffe, donc la gastronomie, les
Québécois
aiment ça.
Parce qu'au Mexique, les plages, c'est pas tout à fait génial. Ça dépend où on est.
Ça dépend où on va. Tu sais, on se rend compte qu'il y a des endroits, je te donne comme exemple, par exemple, Riviera Maya. Pour être moi-même allé plusieurs fois. T'as des très beaux endroits quand même au Mexique. Mazatlan a des belles plages longues.
On est de quel côté? Pacifique?
On est du côté Pacifique et un peu au nord quand même, nord-ouest. Donc, c'est un endroit qui est beaucoup connu pour sa culture, la culture maya. Mais il y a aussi une gastronomie particulière à Mazatlan. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a des belles plages. OK, on est du côté Pacifique, donc les gens qui ont expérimenté le côté Caraïbe et Pacifique se rendent compte qu'au niveau Pacifique, il y a plus de... C'est plus rough un peu, la mer.
La mer où il y a plus de vagues,
Donc, tu sais, tu vas pas là pour nécessairement te baigner dans l'eau. quoique c'est toujours possible, mais c'est plus pour marcher sur la plage, la gastronomie. Donc, tu vois, Sunwing a ouvert Mazatlan cette année et va développer cette de concert avec le pays qui veut qui veut miser sur cette destination-là.
Et quand il s'agit de nouvelles destinations, est-ce que ça veut dire que c'est plus cher au début? Est-ce que ça coûterait combien un voyage pour Mazatlan, par exemple?
Pour Mazatlan, ça peut être dépendamment du type d'hôtel qu'on a. C'est une destination qui reste très abordable. Le Mexique, en général, à part la Riviera Maya, et surtout comme on pense à la côte ouest, est très accessible. Donc, Mazatlan, tu peux facilement avoir une semaine en promotion à 1300-1400 pour une semaine. Puis ça peut aller jusqu'à 2000 si tu es vraiment dans un grand 5 étoiles, mais c'est encore là très abordable comparativement à d'autres endroits qui sont offerts dans le sud.
Okay. Quand on dit, Marie-Claude, que c'est une nouvelle destination, pourquoi on n'y allait pas avant, les Québécois?
Ben, et tu vois, ça, c'est une question très intéressante parce que, justement, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs qui font qu'une destination s'ouvre ou pas. Et il y a l'échiquier politique. Là, on parlera plutôt au niveau de l'international tantôt de ce facteur-là. Mais au niveau du sud, entre autres, il y a le climat. Si, par exemple, c'est dangereux ou pas, il y a eu des petits problèmes à certains endroits, on l'a entendu à la télé. Donc, il y a ça. Il y a le fait que les ouragans aussi regardent Saint-Martin pendant un bout de temps. C'était très hot. Là, ils sont en train de se reconstruire, puis ils ont réouvert récemment. Donc, il y a aussi une demande qui se fait avec des destinations qui deviennent comme un peu tendance et où les gens veulent aller. Donc, il y a des courants comme
on
ça.
On va avec la demande aussi.
Et un autre facteur, c'est aussi la promotion du pays. Ça a l'air de rien, mais par exemple, cette année, on a entendu beaucoup parler de la Guadeloupe et de la Martinique. Pourquoi? Parce que le tourisme de ce côté-là a fait beaucoup de promotion ici au Québec et les grossistes en voyage ont emboîté le pas en offrant plus, mais par exemple, de forfaits pour ces endroits-là. Donc, ça devient comme des choses importantes. Mais à part les destinations, parce que j'allais vous parler aussi d'une dernière, si tu me permets.
Ben oui, tout à fait.
La base Californie, qui est représentée par Los Cabos, qui était avant, j'ai écrit un article dans
Huffington Post. C'est
une petite pointe qui était avant.
L'autre côté du Mexique, en fait.
En fait, c'est juste au nord du Mexique.
Et à
l'ouest? Non, c'est-à-dire c'est au Mexique, mais c'est juste entre, mettons, la Californie et avant d'arriver plus bas. Puis c'est vraiment juste une petite pointe. On est vraiment dans un endroit qui était privilégié, moins accessible. C'est moins connu. Donc, c'était l'apanage, en fait,
des riches
et célèbres. Ouais. Les stars d'Hollywood avaient tous des villas-là. Et c'était inaccessible. Mais tu vois, justement, je parlais de ça avec Sunwing. Ils ont ouvert la destination depuis quelques années. Puis, il y a eu des hôtels, des grandes chaînes espagnoles, Rio, pour ne pas la nommer, par exemple, qui sont arrivés là avec quelques hôtels. Et ça a permis d'avoir des forfaits tout inclus. Très abordable pour un coin qui était avant l'apanage seulement des riches et célèbres.
C'est un territoire américain, là?
C'est un territoire mexicain. Donc,
ah,
ça
oui,
appartient
okay.
au Mexique. Oui,
OK,
totalement.
Je pensais vraiment que c'était rattaché à la Californie, pas du tout.
Non, ils appellent ça la base Californie, mais ça fait partie du Mexique, en fait. Donc, tu as la culture. Et ce qui est très intéressant aussi au niveau culturel, c'est que tu es à cheval, en fait, entre la culture mexicaine et un peu c'est teinté par la culture aussi américaine du Sud. Donc, tu as vraiment quelque chose de très particulier là, au niveau de la nourriture Tex-Mex, mais en même temps, tu as une touche mexicaine avec des guacamoles, des trucs comme ça. Donc, les gens qui s'intéressent au côté foodie aussi, c'est une destination intéressante.
Et dans les mêmes prix que n'importe où ailleurs au Mexique.
C'est un petit peu plus cher, Los Cabos, mais c'est encore là, ça reste abordable. Quand je dis abordable, c'est on compare toujours avec ce qu'il y avait avant. Et ça, c'est très intéressant parce que les Québécois ont dit entre nous autres, sans le dire vraiment, qu'on est connus pour ça, pour aimer le luxe, mais à bon prix. Donc, on est du genre à aimer les bargains. Hein?
On est un peu contradictoire.
Donc, comparativement à peut-être d'autres clientèles au Québec, on va aimer beaucoup les forfaits tout compris pour ça, parce qu'il y a un niveau qu'on est prêt à payer au Sud, qu'on paiera peut-être pas pour aller ailleurs, tu vois. Donc, c'est tout l'intéressant des voyages tout compris comme ça, avec Los Cabos et tout ça, qui sont quand même abordables.
Marie-Claude, tu parlais de bouffe tantôt. Je vais faire une petite parenthèse sur Cuba. Parce que pendant plusieurs années, on a eu l'impression, ben moi, pour y être déjà allée, là, que la bouffe à Cuba, c'était ordinaire.
Oui.
Je suis pas allée depuis très longtemps, mais apparemment, il y a eu une grande amélioration dans la qualité de la bouffe qu'on offre aux touristes là-bas.
Ben, en fait, tout dépend aussi de l'hôtel. Parce que veux pas, même si tu sors dans les sentiers, nous, on se dit toujours, on va aller, par exemple, à La Havane déguster des trucs. Le plus clair de ton temps, tu le passes aussi dans ton hôtel, puisque tu te nourris à ton hôtel. Et c'est plus facile aussi de passer par un forfait tout compris parce que ça te coûte moins cher, avion, hôtel et tout. Maintenant, avec des hôtels comme les Royalton, entre autres, qui sont des hôtels 5 étoiles, qui sont offerts, entre autres, par de gros voyagistes, ouais. mettons, comme Sunwing, ça t'aide à y aller parce que ça te permet d'avoir une nourriture qui est meilleure avec une offre meilleure. Oui, ça s'est amélioré. Ça reste que c'est toujours l'approvisionnement de stock là-bas.
Ouais.
Donc, on s'entend qu'il y a moins de variété au niveau gastronomique que tu pourrais en avoir au Mexique, par exemple.
Par exemple.
Mais c'est vrai qu'ils ont fait venir, entre autres, des chefs. Entre autres, quand on avait été au Royalton avec Sunwing, justement, l'année passée, on avait un chef qui venait du Mexique, justement, qui était spécialisé en culture mexicaine,
wow.
qui avait amené un peu. Puis là, il avait étudié à Cuba pour des recettes cubaines pour offrir quelque chose de différent. Donc, okay. tu as quelque chose qui se passe là.
Marie-Claude, on va s'arrêter pour une courte pause et au retour, on va parler de plein d'affaires, entre autres des compagnies qui offrent maintenant des départs d'ailleurs qu'à Montréal, dans les aéroports, pour faciliter le voyage à des gens de partout au Québec. Et on va parler de d'autres formes de tourisme.
Tourisme sur mesure.
Le gourmand, le santé et tout ça, là, ça se développe vraiment très, très vite, ça. Au retour. Alors, notre invitée, Marie-Claude Dililo, qui est journaliste en art de vivre et rédactrice en chef du blog Le Carnet de MC. On parle voyage. Et là, je m'y attendais. Il y a des gens qui nous ont écrit pour nous dire, là, vous parlez de voyage en avion. Vous avez certainement pas signé le pacte. C'est sûr qu'il y a des raisons environnementales qui vont faire que les gens vont cesser de voyager parce qu'effectivement, prendre l'avion, ça incite, ça initie beaucoup de pollution. Il y a des voyages écotouristiques qui se font maintenant avec cette conscience-là. Les voyagistes le savent.
C'est justement, on parlait tout à l'heure, juste avant la pause, du tourisme sur mesure, le segment écotouristique, mais avec tout ce que ça va aussi, que ça implique, c'est-à-dire d'offrir aux gens la possibilité d'aider un pays et aussi de lutter, en fait, contre la pollution. Oui, on prend l'avion, mais souvent, par exemple, on peut prendre une cote, certains voyagistes le font, pour redonner au pays dans le but d'aider le pays au niveau environnemental.
Quels pays le font, Marie-Claude?
Pardon?
Quels pays font ça?
Ils font, entre autres, le Costa Rica. Le Costa Rica l'exige dans son pacte touristique, si
okay.
on veut. Donc, une partie de l'argent des voyagistes et des hôtels doit revenir au pays pour aider, entre autres, à la préservation, si on veut, des lieux protégés, comme par exemple les volcans, les parcs nationaux. On sait que la plupart du pays, justement, est consacré parc national. Donc ça, la Colombie, qui est une nouvelle destination aussi, là, on va faire une pierre deux coups, on va parler d'une nouvelle destination émergente, après les narcotrafiquants et la dévastation au niveau du pays, tant au niveau environnemental qu'au niveau du peuple. Lorsqu'on va en Colombie, par exemple, une partie de l'argent, le pays se le garde pour réaider à la reconstruction au niveau des villages, redonner au peuple et aussi aider à la faune pour remettre au niveau écotouristique.
Et il y a des organismes qui permettent aussi aux gens d'acheter une compensation carbone quand ils ont fait un voyage en avion. Il y a même des gens qui se donnent ça en cadeau parfois. Alors, ça enlève la culpabilité de prendre l'avion en achetant la compensation. Mais effectivement, vous devez remarquer un peu dans le monde du voyage qu'il y a des gens qui ne veulent plus prendre l'avion à cause de ça. Est-ce que c'est assez répandu, Marie-Claude, ou pas vraiment?
Écoute, je te dirais que ça va être difficile d'arrêter les gens de voyager, surtout que c'est une tendance de fond, puis qui n'aime pas voyager. Mais c'est sûr que la nouvelle tendance s'en va vers, justement, prendre des précautions et les grossistes en voyage doivent suivre le pas. Tout à l'heure, on va parler de l'international. Je donnerai l'exemple du Steamship Soudan, qui est un bateau qui, justement, est éco-responsable de A à Z. Maintenant, beaucoup plus d'hôtels aussi, tu sais, on va aller un petit peu plus large, là, offrent la possibilité, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est quand même assez récent, qu'on nous dit de garder les serviettes et s'ils sont seulement mis à terre et tout ça. Donc, il y a plein de gestes qui sont posés, en fait, parce qu'on n'a pas le choix. Les gens commencent de plus en plus à être sensibles à ça et ils se le font aussi imposer. Donc, puis il y en a qui le prennent aussi de belle façon en disant, écoute, nous, on veut faire un geste pour notre pays parce que en bout de ligne, c'est nous qui vont payer si on fait du tourisme sauvage, si on accepte le tourisme sauvage chez nous, là.
Bon.
Et puis, il y a le Roatan comme dernier exemple aussi, qui est une destination offerte en tout compris aussi, qui redonne une partie pour les barrières de corail et tout ce qui est aquatique là-bas, puisque c'est le paradis de la plongée et de l'apnée là-bas parce que c'est des zones protégées. Le Roatan qui appartient au Honduras, en fait, qui est une petite île dans les Caraïbes et qui est de plus en plus tendance aussi.
Bon, parmi les types de voyages qui se développent beaucoup, il y a les voyages gourmands.
Oui.
Alors, ça marche très, très fort.
On s'entend que le segment foodie, de toute façon, a explosé depuis quelques années et maintenant, ça touche tous les secteurs d'activité. On n'a pas le choix. Donc, évidemment, le tourisme foodie qui se développe de plus en plus, autant dans le sud que dans l'international. Dans le sud, par exemple, on peut vous donner un exemple de foodie qui a une offre spécialisée pour lui. C'est que ça part de l'avion à l'hôtel à la destination. Je m'explique. Dans l'avion, les compagnies aériennes, il y a eu Transat qui avait Daniel Vézina à bord, le chef on board.
Ça marche encore, ça?
Je pense. Ah, j'ai regardé, je ne l'ai pas trouvé sur le site. J'ai l'impression qu'ils ont arrêté leur partenariat avec Daniel. Mais de toute façon, ils ont quand même des choses au niveau gastronomique qui vont de ce côté-là. Il y a Sunwing qui a la chef, parce que c'est un peu plus canadien-anglais, donc ils sont avec la chef Lynn Crawford qui a une émission sur le Food Network qui prépare des menus. Donc déjà là, le foodie est accueilli dans l'avion avec une offre foodie. Après ça, il débarque dans un hôtel où est-ce qu'on lui offre des choix gastronomiques qui vont au-delà. Et on parlait de Cuba tantôt, les choix gastronomiques. Même à Cuba, ça se développe de plus en plus d'avoir des restaurants spécialisés. Alors, il n'est pas rare d'avoir, au lieu d'avoir 2-3 choix à la carte, tu en as 7-8 maintenant, avec des restaurants qui sont signés. Comme à Las Vegas, par exemple, on a Gordon Ramsay. Tu as, par exemple, les Planet Hollywood. Et au Costa Rica, par exemple, ils se sont installés là avec, justement, ils ont un chef, Guy Fieri, qui est au Food Network aussi avec une émission, qui lui a ouvert une franchise, si on veut, d'un restaurant de hamburger sur place, mais hamburger de luxe.
Non, c'est pas du McDo, là.
Non, c'est pas du McDo. On est dans un autre univers. On est ailleurs. Et la destination, par exemple, que ce soit le Costa Rica ou le Mexique, a aussi des circuits gourmands dans ses excursions où ça peut aller, par exemple, des cours de cuisine que tu peux aller faire à l'extérieur. Tu peux aller voir vivre avec des Autochtones une journée pour apprendre un peu la cuisine ancestrale et aussi artisanal. Ça peut des tours guidés, par exemple, d'une chocolaterie, des choses comme ça. Ça se fait en Jamaïque aussi. Tout ce genre de choses-là qu'on peut planifier à l'avance avec son agent de voyage pour avoir une offre qui, tu vois, déborde des plages.
OK. Parce que tantôt, quand tu disais, Marie-Claude, que ce qui est le plus populaire, c'est le tout inclus, mais je pense que les gens ont envie d'essayer d'autres affaires que de tout le temps être dans la même routine.
Même hôtel.
Oui, manger les mêmes affaires.
Mais tu vois, c'est ça l'ironie, Marie-Hélène, c'est que les gens vont... Le tourisme en forfait tout inclus est loin de s'arrêter. Au contraire, il y a un boom de ce côté-là, probablement à cause d'un rapport qualité-prix qu'on recherche, mais... Par contre, on va aller à l'extérieur chercher ce qu'on veut au niveau, par exemple, soit des excursions, soit d'aller se promener, d'aller vivre avec les locaux, d'aller vivre une expérience avec ça. Puis, ils sont pas fous non plus au niveau des excursions. Ils ont planifié ce genre de choses-là. Et là aussi, on parlait d'empreintes aussi de redonner à la communauté. Il y a des excursions qui sont plus humanitaires que d'autres. Ou est-ce qu'ils redonnent, par exemple, aux communautés qui te reçoit dans leur village là pour te montrer des choses? Et ça, c'est pour le tourisme gastronomique.
Bon, il y a le tourisme santé aussi. Alors, les retraites de yoga, ça marche fort, ça?
Ça marche fort. Écoute, il y a quelques années, la différence, c'est qu'avant, il y en avait toujours, mais c'est rare que tu avais des groupes ou tu avais des forfaits tout inclus qui accueillaient que ce type de clientèle-là. Donc, c'est ça qui est nouveau. T'as des voyages maintenant. On regardait ça. Je regardais sur le site de Sunwing, entre autres. Il y a vraiment des hôtels. Entre autres, il y en avait un. Moi, je pars bientôt pour le Costa Rica, mais il y avait Sainte-Lucie et au Costa Rica où t'as des hôtels qui sont basés où est-ce que tout est inclus. Les cours de yoga, la relaxation, les massages, les bains, l'exfoliation.
Ça, c'est cher, là.
Parce que là, on va chercher le spa, dans
les hôtels, c'est
exactement.
Dispendieux.
Là, ça va chercher une clientèle un petit peu plus, nantie, parce que là, mais remarque que si tu fais toujours la part des choses, s'ils avaient à payer ça à la carte, ça leur reviendrait peut-être plus cher que s'ils se font une semaine juste pour ça. Mm-hmm. T'as des détox aussi avec les jus, t'as certains endroits. Tu vois, moi, dans l'international, j'ai été au Sri Lanka. Là-bas, c'est très fort, la philosophie ayurvédique, qui est une science qui a rapport avec une philosophie qui a rapport avec de la santé du corps et de l'esprit aussi, et ça passe par la nutrition holistique, entre autres. Puis t'as des hôtels maintenant ici, en tout compris dans le sud, qui ont importé cette philosophie-là ayurvédique que tu peux retrouver, entre autres, à Sainte-Lucie.
Mais en même temps, les gens qui partent une semaine avec le but de se sentir plus en santé sont prêts à payer. Ben, tu sais, ils partent avec le, ils ont besoin d'une semaine pour se ressourcer, se refaire une santé. Alors,
c'est pas le même type de clientèle qui va aller sur le party à République dominicaine, par exemple.
Non.
On s'entend.
Bon, et j'aimerais ça parce qu'il nous reste peu de temps, Marie-Claude, qu'on parle de l'international un petit peu.
Alors, les voyages à l'international, de plus en plus sont regardés du côté. On a eu l'Europe qui s'est développée. Il y a eu dans les nouvelles destinations il y a quelques années Israël. Là, c'est arrêté. L'échiquier politique va beaucoup influencer aussi quelle destination va être hot ou pas, et aussi l'argent que le pays va vouloir bien investir pour développer au marketing. Et ça, on l'a vu, la game était très forte au dernier salon Tourisme Voyage à Montréal. Donc, t'as des pays qui étaient là pour aller séduire, en fait, les agents de voyage et aussi la clientèle. Il y a des segments qui se développent, donc les croisières fluviales. Donc, les gens font de plus en plus de croisières ici au Canada, comme aux États-Unis, mais au Canada, c'était relativement nouveau. Et là, on devient plus sensible à quelque chose de différent. On veut quelque chose de plus haut de gamme. Donc, on a développé les croisières fluviales. Il y a deux compagnies, entre autres, qui sont des leaders dans le marché. T'as UniWorld, qui fait des croisières avec un aspect foodie, si on veut, puisqu'on parle de croisières sur le Danube, sur le Rhin. Et là, on débarque.
Ça doit coûter cher. Ça,
c'est des croisières. On parle des croisières de luxe. On parle pas de la même clientèle non plus qu'on parlait tout à l'heure.
C'est quoi
ça? Ça commence à 7 000-8 000 à peu près par personne. Ça inclut les
pour
repas.
Pour une semaine?
Par contre, ça inclut les excursions. Et on sait que l'Europe, c'est cher. Donc, pour une semaine, oui. Et ça inclut des fois 10 jours. Ça dépend des forfaits.
Est-ce que les Québécois aiment ça, les croisières, beaucoup, hein, je pense?
Ben, c'est ça, justement, que je disais tout à l'heure. Ouais. Les Québécois sont très forts sur les croisières. Mais là, la clientèle, je te dirais, il y a beaucoup aussi de gens, des baby boomers, des gens un peu plus âgés qui ont le temps, qui sont à la retraite, qui aiment ce type de choses-là, qui sont un peu plus haut de gamme, mais aussi un peu plus travaillés sur l'offre une eau touristique et tout ça. Donc, ça prend des gens qui aiment le bon vin, qui aiment la bonne bouffe. Et on s'entend que c'est des gens aussi qu'ils évoluent dans un milieu comme ça. T'as aussi, c'est vraiment intéressant, parce que j'en reviens il n'y a pas longtemps, d'Égypte. L'Égypte, qui est un pays
Et l'Égypte, il y a 5 ans, on n'y allait pas, là.
On n'y allait pas. Et puis, depuis Sissi, en fait, la donne a un peu changé. Bon, il y a encore quelques événements, mais c'est par-ci, par-là, c'est un peu plus. Donc, l'Égypte, la compagnie Voyageurs du Monde, qui maintenant est au Québec, a acheté un bateau qui s'appelle le Steamship Soudan, qui est un bateau à vapeur, un des rares qui reste encore de son époque, intégral. C'est le bateau d'Agatha Christie, entre autres, parce qu'elle a été là et c'est là qu'elle a trouvé l'inspiration de Mort sur le Nil. Alors,
intéressant.
Oui, c'est intéressant. Et c'était Thomas Cook qui avait acheté ce bateau-là. Voyageurs du Monde a mis la main sur le bateau, l'a revampé. Et aujourd'hui, on peut faire des croisières en Haute-Égypte pour voir les plus beaux joyaux de l'histoire, parce que tout le monde pense que c'est aux pyramides de Gizeh au Caire. Mais ces pyramides, c'est beau d'y aller. C'est sympathique. C'est une expérience en
mais
soi.
Les voir
mais
de l'eau.
Mais tous les hiéroglyphes, tu sais, ils sont du côté de la Haute-Égypte. C'est un nouvel empire. Donc, c'est beaucoup plus tard dans les dynasties de Pharaon. Et c'est grâce à cette croisière-là qu'on peut voir. Et puis, il y a d'autres destinations aussi, si on a 2 minutes pour parler, qui se développent beaucoup.
Mais le Sri Lanka, tu m'as intriguée
le
tantôt.
Le Sri Lanka,
là.
Moi, je suis allée l'année passée. J'ai écrit un papier pour le Journal de Montréal là-dessus. J'ai eu tellement de courriels là-dessus. Plein de jeunes veulent y aller. Mais c'est une destination qui est globale. Alors, ce qu'on voit, c'est dans l'international aussi, quand ça peut attirer les gens qui aiment les plages, qui aiment la culture, qui aiment la gastronomie. C'est la nouvelle Inde, parce qu'en Inde, ça brasse un peu. Il y a des endroits que c'est moins accessible. Le Sri Lanka, c'est en majorité bouddhiste. Alors, on retrouve une certaine, tu sais, au niveau des temples et tout ça, les gens, ils ont comme toute une philosophie. Les gens aiment beaucoup la philosophie bouddhiste. C'est très calme, c'est très chill. La Turquie, avec Turkish Airlines, en plus, qui est arrivé ici comme leader sur le marché, qui développe 3 vols par semaine pour la Turquie, puis un nouvel aéroport. La destination et le voyageur se mettent ensemble pour promouvoir cette destination.
Il y a plein d'autres choses.
Ah, oui, puis il y a plein d'autres
destinations. Vous irez sur le blog de Marie-Claude pour lire tout ça. Le blog, c'est le carnet de MC.
Exact.
Juste un petit mot, Marie-Claude, sur les aéroports, sur les compagnies qui offrent des vols maintenant de plus de Québec, par exemple.
Oui.
De Mont-Joli aussi, Mont-Joli, je disais.
Oui. Parce que maintenant, ce qui arrive, c'est que justement, t'as de plus en plus de gens en région aussi qui voyagent. Et le voyage peut être coûteux quand il faut que tu viennes à Montréal, sans compter les conditions climatiques aussi l'hiver qui ne sont pas évidentes pour se rendre à Montréal. Donc maintenant, des compagnies s'ouvrent de plus en plus. Entre autres, Sunwing ouvre le vol de Québec et les vols... Québec se développe beaucoup de ce côté-là, mais Mont-Joli aussi et d'autres villes en région aussi qui se développent.
Bien, merci beaucoup, Marie-Claude.
Fait grand plaisir.
Bonne
bon
année
voyage.
De voyage. Le prochain, c'est où? Donc, tu t'en vas au Costa Rica.
Au Costa Rica. Bon. Faire un peu d'écotourisme, justement.
Merci beaucoup, Marie-Claude Dililo. Au retour, Dany Saint-Pierre se joint à nous et on va nettoyer votre frigo avec Dany.